France Inter, franceinter.com.
Bonjour, c'est encore Jean-Louis dans ma petite auto là, mais je me suis arrêté parce que je viens d'entendre l'émission sur la poste. J'explique assez souvent, modestement quand même, qu'un service public, c'est un service qu'une collectivité s'est payé progressivement, c'est-à-dire que pour que ça coûte le même prix à tout le monde, l'État, avec les impôts de tout le monde, a mis au pot régulièrement. Donc je pense qu'aujourd'hui, dès que l'État vend un service public ou dès qu'un privé s'empare d'un service public, eh bien, c'est du vol, tout simplement. Merci et bon courage. À bientôt.
Bonjour à tous. C'est Denise de Bourg-la-Reine. Voilà, j'aurais voulu poser une question, même deux. En cas de krach boursier, que devient l'argent caché dans les paradis fiscaux et quelle est l'activité de Clearstream dans cette situation ? Je me fais beaucoup de soucis. Au revoir.
Avis à la population poitevine. Un repère s'ouvre à Poitiers. Eh oui, AMG de la Baïde, où d'ailleurs vous êtes conviés vendredi 3 octobre au Saint-Paul-de-Vence, place Montier-Neuf, à 20h. Pour la grande première, un repère poitevin. Donc pour cette grande première, nous proposons d'ailleurs quelques extraits du DVD tout frais moulu, Manif de droite. Venez nombreux, donc vendredi 3 octobre, au Saint-Paul-de-Vence, place Montier-Neuf, à 20h. Nous vous attendons nombreux. À très bientôt. Salut.
Bonjour, c'est Claire de Bordeaux. J'écoute votre émission aujourd'hui, jeudi, à propos toujours de cette crise, et je voudrais vous dire une remarque que je me suis faite en regardant dans les villes. N'avez-vous pas remarqué que quand un magasin ferme, une banque ouvre ou une agence immobilière ? Les villes sont pleines d'agences et pleines de banques. C'était déjà un signe avant-coureur, ne croyez-vous pas ? Merci.
Oui, bonjour tout le monde. Samedi 4 octobre, c'est le repère du 20e à Paris, au lieu dit 6 rue Sorbier, de 17h à 19h. Alors l'association PMO, pièces et main-d'œuvre, a diffusé les résultats d'une étude épidémiologique sur les liens entre cancer et téléphone portable. Et si certains ont eu le temps de la lire, je pense qu'il y en a pas mal que ça intéresserait. À vos lorgnons, monsieur, dame. Et puis toujours le 4 octobre, mais à 17h30, on se retrouve avec quelques-uns à la présentation du livre « Pétrole, la fête est finie » de Richard Humbert. Ça a lieu à la librairie Résistance, 4 Villa Compoing, à Paris, dans le 17e. Et puis, bah, tout ce petit monde échangera ses infos pendant le dîner au lieu dit, pour ceux qui peuvent y rester après le repère. Voilà, bisous à tous. Salut.
Bonjour, donc c'était pour signaler le repère du dimanche 5 octobre à 20h au Magique, 42 rue de Gergovie, dans le 14e, donc c'est le repère du 14e. Et donc, salut à tous et à bientôt. Au revoir.
Oui, bonjour, Christine de Clazé. L'équipe du Petit Clazé dans le nord des Deux-Sèvres est bien triste. Son refuge, le Petit Clazé, vient de fermer ses portes, ses volets le 1er septembre. Léa a finalement jeté l'éponge et on a dû chercher un autre refuge. Le jeune Grégory nous ouvre son bar brasserie à Bressuire, dans le centre de Bressuire. Son bar L'Appartement, au 12 rue des Cordeliers. Donc on se retrouve pour la première fois chez lui aujourd'hui, ce soir, à 19h, vendredi 3. Et voilà, donc c'est toujours la même ambiance sympa, mais avec Léa, bien entendu. Allez, salut!
Salut et merci, chers AMG auditeurs et auditrices modestes et géniales et géniaux. Eh bien, nous aussi, on est une ambiance tout à fait sympa. On est ici à Nanterre, figurez-vous, en direct. À Nanterre, dans le parc André Malraux, dans le stade Jean Guimier, dans le quartier Pablo Picasso. face à la gare RER de Nanterre Préfecture. Vous pouvez tout à fait nous rejoindre si vous voulez. On est dans ce stade. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce stade? Eh bien, dans quelques instants, va commencer le deuxième forum social des quartiers populaires, et pendant 3 jours jusqu'à dimanche vont se succéder des débats, des ateliers, des projections, et on a voulu être là à l'orée de cette festivité avec un des musiciens du MAP, le ministère des Affaires Populaires, qui vont ouvrir le bal, et puis des porte-paroles, des animateurs, des gens plutôt engagés, il faut bien dire, dans les problématiques des quartiers populaires. Ça change un peu de banlieue sensible et ces mots embarrassés et embarrassants, c'est les quartiers populaires. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, générique. C'est là-bas si j'y suis depuis Nanterre, le forum social des quartiers populaires, en direct. Flight number 2.
Le gibier sans papier a du souci à se faire. Le chasseur assermenté renifle les tanières. Le ministère de la chasse aux immigrés a ordonné une battue brutale et sans pitié. Ils ont lâché les chiens, les matraques et les tasers. Opération Gestapo, nettoyage au Karcher. La nouvelle circulaire de la haine est très claire. C'est tout le monde dehors. À coups de grosses rangières. Ouais. Monsieur le Président a dit à Monsieur le Ministre de dire à Monsieur le Préfet de faire péter les registres, de remplir les charters, les consignes sont très claires. À la porte, les métèques, on veut que des peaux claires. Les ordres sont d'user de méthodes efficaces. Appel à délation pour expulser les sales races. Paris a des faux airs d'un Vichy sous l'occupation. Réminiscence d'une époque, le fantôme s'appelle Papon. La milice républicaine est passée à l'action. Elle a raflé les mômes jusque dans les cours de récréation. Elle traque jusque dans les églises et les mosquées, dans les usines, les gares et les universités. Cours mon frère, cours ma sœur, cours pour être libre, moi je sais que tu as peur. Cours dans l'indifférence du peuple de France. Ils ont voté. Et maintenant, silence.
Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentant ce décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentant ce décret du ministère. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Appel à résistance, la chasse est ouverte.
Entendez-vous, chers citoyens, le corps de chasse qui sonne. Française, français, entendez-vous l'hymne guerrier qui résonne. Au nom de la patrie, des droits de l'homme, je décrète qu'en ce pays, la chasse à l'homme est désormais ouverte. Du 1er janvier au 31 décembre, sachez chasser comme bon vous semble. Chasse en pleine, chasse à court, chasse à la passée. Chassez croisés, les chasseurs à court, ça y est, la meute est lancée. Petit lapin, sors de ton terrier, vers ton pays lointain, on doit te faire retourner. Peu importe si là-bas c'est la mort qui t'attend, ses pieds sous terre, hors de là, hors la loi, loin des yeux, loin du cœur, cœur de pierre. Cours, cours, tu peux toujours courir. Cours, cours, dois devoir partir. Cours, cours, on te suit à la trace. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, faut que tu penses que c'est perdu d'avance. Va falloir que tu y passes. Le capitaine de chasse, le garde de chasse et le temps de chasse, tous sont sur ta piste, c'est sûr. Tu risques d'y laisser des plumes. Il y a un contrat sur ta tête, petit bonhomme.
Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentant ce décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentant ce décret du ministère. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Appel à résistance, la
La chasse est ouverte.
Un enfant vient de naître.
La chasse est ouverte.
Une femme se jette par la fenêtre.
La chasse est ouverte.
C'est la sortie de l'école.
La chasse est ouverte.
Au berceau à l'hôpital.
La chasse est ouverte.
Aux armes, citoyens.
La chasse est ouverte.
Du 1er au 31.
La chasse est ouverte.
Automne, hiver, printemps, été.
La chasse est ouverte.
Samedi, dimanche et jours fériés.
La chasse est ouverte.
Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. J'ai sonné l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Appel à résistance, la chasse est ouverte.
Merci, c'est le MAP, ministère des Affaires Populaires, en direct depuis Nanterre, depuis le stade Jean Guimier à Nanterre, où dans quelques instants va commencer donc ce forum social des quartiers populaires. Choukri, je voudrais que vous présentiez un peu ce week-end.
Le forum social des quartiers populaires, en fait, c'est une initiative qui est née l'année dernière à Saint-Denis, et ça vise à regrouper les associations de quartiers qui militent dans tous les quartiers de France. Donc c'est de Montpellier, Toulouse, la région parisienne. On essaie de rassembler toutes les associations de France qui veulent bien participer. Et c'est une initiative qui permet de donner de la visibilité aux luttes qui sont menées dans les quartiers. Alors dans le Forum social des quartiers populaires, il y a des espaces thématiques. Il y en a 5 autour desquels ces militants vont pouvoir s'exprimer. Le premier espace, c'est l'espace police-justice. Il y a un espace international, les causes internationales, comme la Palestine ou la cause des Kanaks. Il y a un espace éducation avec Farida Belghoul du RAID qui présente son projet. Il y a l'espace banlieue-média, donc qui traite de la question des médias envers les quartiers en général. Et la question de l'apartheid urbain avec la rénovation urbaine. Alors ces 5 ateliers... vont se prêter à des débats, à des initiatives et à peut-être des projets. C'est le but de ce forum. C'est qu'à terme, il y a des projets qui naissent. Et on pourra dire que ce sera une victoire que déjà se réunir, débattre et faire un bilan des luttes. Faire ensuite des projets derrière, ce sera extraordinaire, on va dire, et on l'espère. Il y aura 3 grands débats sous le grand chapiteau qu'on a ici. Le premier débat concerne la concurrence des identités. Très présente dans nos quartiers. On sait que voilà, il y a des municipalités qui n'hésitent pas à jouer du communautarisme, là où nous, on nous reproche d'être communautaires. Donc c'est un moyen de débat, de savoir où on en est dans les quartiers. Le deuxième débat concernera le mouvement des quartiers populaires et les mouvements de gauche en général. Alors on n'est pas là pour dire tous pourris ou quoi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir qui nous représente concrètement et réellement. Le troisième débat concerne les perspectives pour nos quartiers. C'est-à-dire que les perspectives, l'avenir, ce n'est pas dans les bureaux de l'Élysée qui vont les trouver, c'est au sein des quartiers et on a besoin de se compter les uns les autres pour pouvoir avancer. Donc voilà, c'est des débats, c'est des discussions autour de tables. Alors ça se fait dans une ambiance conviviale, hein. Il y a de la scène, il y a de la musique, du théâtre. Il y a un cinéma de quartier qui va retracer les différents combats ou retracer les combats des militants. Il y a de la restauration et de l'hébergement sur le site.
Ok, voilà. Alors, on va commencer tout de suite à évoquer quelques-uns des sujets, des thèmes et des problématiques qui seront posés tout au cours de ces 3 jours. Et on va commencer avec Kaïssa Titus. Kaïssa Titus, sur le thème de l'ANRU. C'est quoi l'ANRU ? L'ANRU, c'est l'Agence de Rénovation Urbaine. C'est un programme lancé par Jean-Louis Borloo pour rénover les ghettos urbains. C'était ça l'intention. Or, vous contestez ce programme, vous parlez d'épuration sociale et il y a toute une série de groupes et d'associations qui s'oppose à ces démolitions. Kaïssa, est-ce que vous voulez nous donner quelques lumières sur ce sujet ?
Au soir de la conférence de presse de M. Borloo en juin 2003, Le Monde titrait « Pour résorber la crise urbaine et sociale, le gouvernement envisage de démolir 40 000 logements par an ». Question, est-ce qu'on pense que pour résorber la question du chômage, la question d'un certain nombre d'échecs scolaires, la question du mal-vivre, la question des rapports difficiles avec la police et la justice et toutes les discriminations raciales à l'embauche et dans le déroulement de carrière. Il suffit de démolir 40 000 logements par an pour résorber la crise urbaine et sociale. Chacun sait bien qu'effectivement les villes se renouvellent et que dans l'histoire, il y a eu des démolitions et des reconstructions. Ce qui marque, je dirais, une nouveauté essentielle, c'est qu'en 2003, après 30 années, je dirais, sur les quartiers, d'un certain nombre de politiques qui ont été mises en place pour résorber la crise sociale et urbaine, pour instaurer plus d'égalité, on voit bien qu'il y a eu un certain nombre d'échecs. Les émeutes de 2005 sont là pour prouver que rien n'a été vraiment résolu et que les problèmes sont devant nous. Eh bien, le pouvoir politique a trouvé que, finalement, pour résorber ces problèmes, eh bien, il fallait démolir les appartements et, en gros, les logements sociaux pour tout simplement se débarrasser des gens en pensant qu'en se débarrassant des gens, eh bien, les problèmes disparaîtraient des cités. Qu'est-ce que c'est que l'ANRU ? C'est un projet politique national porté par des élus locaux qui sont les maires. L'Agence nationale de rénovation urbaine, qui sert d'exemple, fait référence à un certain nombre d'agences américaines où quand il y a un problème national, il suffit de créer une agence, dotée d'ailleurs, comme par hasard, de 45 milliards. On voit bien que le plan banlieue, qui n'a même pas été, financé, puisqu'on a parlé de 500 millions, quand on veut appliquer une politique nationale, on y met le prix. 45 milliards pour faire quoi ? 45 milliards pour, à l'horizon 2013, démolir 300 000 à 400 logements sociaux, vendre du HLM, éparpiller les gens, c'est-à-dire d'une certaine manière organiser une forme de spéculative autour des villes, parce que chacun sait que les prix du foncier flambent et que donc ces quartiers, le prix du mètre carré va flamber. Déjà, on a évacué toutes les classes populaires de Paris. Aujourd'hui, c'est la périphérie de la banlieue parisienne. Mais ça ne touche pas simplement que la périphérie de la banlieue parisienne. Ça touche 531 quartiers. Et on démolit aujourd'hui des milliers de logements dans le silence le plus total des habitants qui sont confrontés à des annonces de démolition par voie de presse, par affiches, par des lettres des bailleurs. Et qu'est-ce qu'on démolit ? On démolit des logements qui ont été construits dans les années 70. Au Plessis-Robertson, on démolit des logements qui ont été construits en 1989. Alors qu'on est capable de rénover des chapelles du XIIIe siècle, des immeubles en béton, des grands appartements pas chers qui permettent à des classes populaires de se loger dans une situation où 40% des jeunes dans les quartiers sont au chômage, on n'a rien trouvé de mieux pour précariser encore plus, de virer les gens de leurs appartements.
Donc, oui. Donc Aïssa, vous êtes partisane de réhabilitation et non pas de démolition.
Normalement, dans le règlement intérieur de l'ANRU, il est prévu 45 milliards de subventions et ces subventions ne servent en majorité qu'à des démolitions, alors que le règlement intérieur de l'ANRU prévoit qu'il doit y avoir une reconstruction pour une démolition. Quand on regarde les projets un par un, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'entre 20 et 30% de reconstruction. Qu'est-ce qu'on fait ? On tue les gens ? Eh bien, on les éloigne. Et quand on reconstruit des logements beaucoup plus chers. Je vais vous prendre un exemple. On détruit à Meaux 10 tours de 309 logements. Ça fait 3000 logements. Qu'est-ce qu'on fait des gens ? On détruit 1700 logements aux Mureaux. On a détruit plus de 2000 logements à Mantes-la-Jolie, et je vous en passe, à Montpellier, à Toulouse, à Marseille, dans la région lyonnaise. On détruit des appartements qui permettent à des familles de pouvoir s'en sortir avec des loyers de 400-500 euros. Et on reconstruit des immeubles à loyer intermédiaire avec des loyers de 800, 900 et 1000 euros. Une deuxième conséquence de l'ANRU, c'est la politique de la France des propriétaires. Et comment on fait pour obtenir la France des propriétaires, eh bien, on a décidé qu'il fallait vendre le logement social, vendre des logements sociaux qui ont été autofinancés par le travail des gens, par le 1% logement, qui sont rentables, qu'il n'y a plus de prêts sur ces logements. Et donc, on voit que, par exemple, ICAD, hein, une filière de la Caisse des dépôts et consignations, a l'intention de vendre cette année 40 000 logements par an à Fontenay-sous-Bois. C'est 3 tours qui vont être vendues. À Sarcelles, on projette de vendre 4 000 logements. Qui peut acheter aujourd'hui au prix du mètre carré de la région parisienne entre 3 000 et 5 000 euros?
Bon, Kaïssa, on a compris. Ça, c'est un des thèmes qui va être... Alors, vous êtes applaudis. C'est un des thèmes... Alors, c'est dire si c'est riche, c'est 3 jours. Ça, voilà un thème qui va être débattu.
C'est juste quand... un petit mot, Daniel. Donc... l'atelier a lieu pendant ces 3 voilà. jours. Demain matin, c'est les enjeux de la rénovation urbaine. Qu'est-ce qui se cache? Quel est le projet politique qui se cache derrière la rénovation urbaine? L'après-midi, il y a un certain nombre de collectifs, et entre autres la coordination anti-démolition des quartiers populaires et le FSQP, qui essaient de mobiliser les habitants pour les soutenir, pour se défendre contre ces démolitions. Ils viendront expliquer ce qui se passe dans les quartiers à 14h. Et dimanche, on verra ensemble si on est capable de construire un outil commun de rassembler nos forces pour que cette question soit enfin visible, au moins dans les médias, et qu'on arrive à lutter contre ça.
Merci beaucoup. Merci. Alors, un thème qui a été évoqué tout à l'heure par Choukri, qui va être un thème central dans ce week-end du Forum social des quartiers populaires, c'est la question des relations entre, on va dire, l'immigration et les partis politiques.
Voilà, pour faire une parenthèse, c'est un débat. En fait, c'est un des grands débats. Il y a 3 débats sur le site du Forum. Ce n'est pas un espace, c'est un débat. Et ça se passe sous le chapiteau. Et ça concerne les relations entre, comme tu as dit, les mouvements politiques de gauche et les gens des quartiers.
Noureddine, on se connaît depuis quelques années. Je t'ai connu un militant libre. Et maintenant, j'apprends que tu fais partie du conseil municipal de la mairie de Nanterre. Alors, est-ce que tu as trahi? Est-ce que tu t'es compromis en passant du mouvement social militant à la municipalité, en faisant ce pont qu'on évoque là entre le mouvement, la contestation et... tu vas me dire que non. Tu vas me dire que tu as eu raison.
Je vais être au regret de te dire que non, parce que ce choix, je l'ai fait, j'en ai parlé autour de moi. Bon, en tant que militant de ces quartiers-là, ce choix, je l'ai fait de me présenter avec la liste de gauche communiste d'initiative citoyenne, parce qu'elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte de manière conséquente à des militants et des militantes issues d'immigration qui font que, pour ma part, je me sens ni l'outil des politiques, ni instrumentalisé. Simplement, ce que je voudrais rappeler, parce que bon, on parle comme ça, mais je suis né à Nanterre, j'ai grandi à Nanterre, et quand j'entends en 2005 que dans les quartiers populaires, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas eu de gens qui ont essayé d'alerter sur la situation dans le quartier, ben là, je suis choqué, et c'est ce qui nous a permis à nous, en tout cas, de dire qu'il fallait créer un espace où les gens peuvent se rencontrer, peuvent expliquer et raconter leur lutte, les expliquer, et expliquer aussi qu'il y a une histoire, il y a un passé, et qu'on n'arrive pas comme ça. Je suis pas un autre en libre, je suis avec des gens depuis pas mal d'années, je suis un militant du MIB, j'ai été aussi militant contre la double peine. Ici à Nanterre, on s'est battu pour la résorption des cités transit dans lesquelles pas mal de familles ont vécu. Mmh. Donc... ma relation, bon, avec le maire, elle est une relation directe. Mais je me sens ni instrumentalisé. De toute façon, pour dire la vérité, je me sens irrécupérable, quoi. J'avertis les gens.
Invendable. T'es invendable.
Je suis invendable et irrécupérable. Je pense que les problèmes qui sont sur la table et qui nous concerne, c'est des choses dont on parle depuis des années. Et je pense qu'il n'est pas question pour moi de les zapper, quoi.
Je voudrais entendre Amoudi, qui est de diversité de Rhône-Alpes. Hein. Amoudi, c'est ça. Je voudrais, en quelques mots, Amoudi, si tu veux bien, mais en quelques mots, bref, évoquer les, un peu les relations et les contentieux aussi qui peuvent exister. Alors, c'est toute une histoire longue entre l'immigration et les partis politiques. Mais en quelques mots.
Et c'est-à-dire entre l'immigration et les partis politiques traditionnels et surtout de gauche, ça ne peut pas se résumer en quelques mots.
Oui, je sais.
Parce que c'est un contentieux qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un contentieux qui date déjà du Front populaire. Et il faut savoir que le Front populaire a déjà interdit en 1937 l'étoile noire africaine, la première grande organisation des maghrébins de France par rapport à la décolonisation et par rapport à l'indépendance des pays du Maghreb. Et avec la gauche, nous, les gens dans les quartiers populaires qui essayent tous les jours à créer des espaces d'expression et de liberté pour lutter et ne pas se laisser mener dans ces politiques destructives de nos quartiers, malheureusement, il reste très peu de gens. Et à ces gens-là qu'on veut s'adresser pour leur donner un signe positif, pour leur dire vous n'êtes pas tout seul dans votre quartier, que le forum est fait aussi pour ça. Et ce qui, le grand débat qu'on veut faire là-dessus, sur cette question, c'est surtout notre relation en tant que mouvement de quartier et les mouvements et les politiques sociales, c'est-à-dire les mouvements qui nous sont un peu proches, qui ont déserté nos quartiers. C'est cela qu'on veut interroger. La gauche traditionnelle, on n'en a rien à entendre. Je viens de rappeler tout ça, la guerre d'Algérie, les OS dans le passé qui se sont retrouvés tout seuls, les grèves dans les foyers Sonacotra, les grèves de la faim, la carte 6 jours, la promesse sur le droit de vote qui date de 30 ans presque et personne ne machin. Une convergence entre la gauche traditionnelle et la droite sur cette question-là, parce que je ne sais pas de quoi ils ont peur à partir du moment de donner une dignité et une expression politique au moins locale. De quoi ils ont peur ? De quoi ils ont peur ? Ils peuvent le faire parce qu'ils sont en train de changer la Constitution. C'est quoi ? C'est toutes ces questions-là, les sans-papiers, la marche pour l'égalité. On a vu les trahisons. On a vu comment ils ont liquidé ces mouvements de quartier, comment ils ont miné, comment ils ont créé des associations, des organisations satellites, genre SOS Racisme, qui a été créé dans un laboratoire avec un objectif précis, France Plus, etc. etc. Et maintenant, si on revient à cette question-là, nous, par rapport à cette question, la question de la cooptation politique ou de l'intégration politique ou la diversité, c'est bien que la gauche ou la droite prennent en compte la diversité au niveau politique, sauf qu'ils ont tendance à prendre des individus. Peut-être il y en a qui ont les compétences pour mériter des postes qu'ils ont, ou d'être sur un ministère ou un cabinet, ou être ministre. Mais aujourd'hui, c'est des faire valoir. Ils les prennent en tant qu'individus. Ils ne les prennent pas en tant que personne faisant partie d'une problématique sociale, de l'histoire de leurs parents, etc., etc. Et nous, ce qu'on veut interroger sur ce grand débat, et je termine là-dessus, si tu permets, Daniel, c'est qu'on veut interroger les gens qui nous sont les plus proches, qui ont un peu déserté le quartier, c'est des mouvements alternatifs, c'est des mouvements sociaux qui nous sont proches, et on voudrait savoir quelle convergence avec eux, quelle divergence, comment on peut faire ensemble, et qu'on leur demande de revenir, parce qu'on a des choses peut-être à faire ensemble, on ne peut pas être 100% d'accord sur tout, et nous, notre problématique, elle est globale. Et le jour où on ira peut-être en politique, on ira, pas individuellement, mais collectivement, sur une dynamique qui nous concerne et qui est globale.
Merci.
Merci.
Merci à Moody. En tous les cas, avec vous, on comprend que toute cette histoire-là, des mouvements et des quartiers populaires, s'inscrit dans une histoire. Il y a une histoire, ça ne sort pas de n'importe où.
Histoire, ouais, c'est dans une histoire, et comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie des grands débats, et preuve en est qu'on a besoin de débattre autour de ça. On sait que les avis divergent entre nous-mêmes. Donc il faut que chacun puisse apporter les arguments sur ces débats pour que on puisse avoir des pistes de réflexion réelles, tout en ayant en mémoire ce qui s'est passé par le passé, les luttes du passé. On n'oublie pas toutes les luttes, que ça va à partir du Front populaire, que ça va par mai 68, que ça va par la crise des banlieues de 2005 ou la marche des beurs. On se souvient de notre passé pour mieux appréhender l'avenir. Mais le but est de se mettre autour d'une table pour discuter ensemble, sans s'arrêter forcément à se dire j'ai pas le même avis que lui, donc forcément je ne travaille pas avec lui. Non, travaillons sur des sujets sur lesquels on converge et dans lesquels les gens des quartiers vont trouver vont trouver des choses à retirer.
La parole est au ministère des Affaires Populaires.
La chanson qui suit, c'est l'histoire d'une lettre entre deux frères de chaque côté de la Méditerranée. Un qui a émigré en France et l'autre qui est resté au pays là-bas. D'après une chanson originale de Monsieur El Hachemi Gerwabi, Choufouma Sarfi Bladi, MAP. À toi l'émigré, toi mon frère. Ici la jeunesse se morfond dans l'ennui. Et si notre ciel est si bleu, notre futur semble tellement gris. Alger la blanche n'est plus la même, tu sais. Les guerres fratricides ont fini par altérer sa beauté. On garde l'espoir de jours meilleurs, Inch'Allah. De jours sans heurts, sans corruption, sans attentat la dernière fois. Tu me disais qu'en France c'était pareil ou presque. Tes enfants grandissaient à l'ombre de tours gigantesques. Tu me disais que plus de 40 ans après, notre guerre d'indépendance n'a pas encore été digérée. Apparemment tes enfants ne sont pas vraiment français. Dans ce pays où ils ont grandi, où ils sont nés. Dire que notre père a combattu les nazis. J'ai toujours sa médaille et son fusil. Sa médaille et son fusil. L'année dernière à la télé, j'ai vu la France brûler. Des jeunes de vos quartiers affronter des policiers. Depuis, devine qui est venu habiter à la maison. Notre neveu Abdel, suite à son expulsion. Il aurait mis le feu à une poubelle, ça ne pardonne pas. Retour vers ce pays qu'il avait quitté à l'âge de 18 mois. Ici aussi il n'est qu'un étranger. Ici tout le monde l'appelle le français. Chauffou ma sœur, fiblé, j'aille de nord. Chauffou ma sœur, fiblé, j'aille de nord. Vu tout leur part de mnaï, j'ai qu'il oui d'un. Vu tout leur part de mnaï, j'ai qu'il oui d'un. شعلت النار شوفوا ما صار في بلادي شعلت النار.
Salam mon frère, tes mots sont pleins de sagesse. Je retiens mes larmes, ta lettre me remplit de tristesse. La nostalgie m'envahit en pensant au pays. Ce pays qui mérite enfin de sortir de l'oubli. Je me sens si loin de la terre de nos ancêtres. Si loin de cette Kabylie qui nous a fait naître. Ici nos valeurs ne sont que des souvenirs. Elles sont dans nos cœurs mais n'ont pas le droit de s'épanouir. Nos traditions sont considérées comme répugnantes. Notre langue agresse l'oreille de la classe dirigeante. Nos fils sont si beaux et pourtant si méprisés. Nos filles sont si belles pourtant si peu respectées. Nos enfants souffrent dans leur prison à ciel ouvert. Ils savent pas qui ils sont, ils n'ont pas de repères. Alors ils crient, ils brûlent pour exprimer leur colère. Mais comme toujours, ils sont les premiers mis à terre. Je me sens si désarmé, si impuissant mon frère. Je me sens si trahi, si indigne mon frère. Mon frère, je suis blessé dans ma chair mon frère. Au fait, pour la médaille et le fusil, tu peux les garder. Tout le monde s'en fout ici, personne ne s'intéresse aux poilus algériens. Ici on préfère les Marines américains. Ils disent que le soldat Ryan leur a fait gagner la guerre. Et pas une ligne sur le courage de notre père. Quelle triste histoire, quelle triste vie. Alors je prie pour rejoindre le paradis.
في كل أقطار دمنا يجري كل ودان.
Ministère des Affaires Populaires, merci, on est en direct, là-bas si j'y suis en direct depuis Nanterre, à l'occasion du début du Forum social des quartiers populaires. C'est superbe, on est dans un endroit magnifique, hein. Il fait froid, mais c'est très beau. Une grande pelouse, un chapiteau, et tout autour des tentes avec des ateliers. Dans chaque atelier, il y a un débat, il y a une histoire, il y a une militance, il y a une volonté de faire de la politique, tout simplement. Ça, quand même, il faut appeler les choses par leur nom. On continue à évoquer certains ateliers, certains débats qui vont avoir lieu au cours de ces trois jours. Avec Choukri, on va poser des questions à Farida Belghoul, Espace Éducation, c'est le RAID, R-E-I-D, Remédiation Éducative Individualisée à Domicile. Farida, c'est quoi ?
Le RAID, c'est une association qui est nouvelle, c'est une association qui est née au mois de juin dernier et qui veut répondre à un problème dramatique qui se passe actuellement en France et qui touche en particulier les quartiers populaires et qui touche en particulier les jeunes des quartiers populaires. C'est l'illettrisme et l'inculture de ces jeunes qui, à 16 ans, ils sont 150 000 à sortir tous les ans du système scolaire à partir de 16 ans, sans savoir pratiquement ni lire ni écrire et sans avoir aucune référence culturelle qui leur permettrait de se repérer et de se défendre dans ce pays dans lequel nous vivons. 150 000 jeunes au moins, et c'est un chiffre officiel, qui sortent de l'école à 16 ans, illettrés et incultes, aucun d'entre eux n'appartient à une classe favorisée. Ce chiffre est un chiffre en expansion constante. C'est un bilan catastrophique, alors que la plupart de ces jeunes ne montrent pas en vérité d'incapacité particulière à l'instruction. On entend souvent dans les conseils de classe que c'est la faute aux familles, que c'est la faute à ces jeunes. Mais quoi ? 1 million de jeunes en 6 ans ne seraient pas capables d'apprendre à lire et écrire dans les écoles en France ? Ce n'est pas possible. Ces millions de jeunes ont passé 8 heures par jour en classe, 8 mois par an pendant 10 ans. Dans une certaine mesure, les enseignants les ont vus plus longtemps que leurs propres parents. Le RAID, l'association RAID, Remédiation Éducative Individualisée à Domicile, qui tient un stand au Forum Social des Quartiers Populaires, est une association qui veut et qui recherche pour ces jeunes illettrés des résultats à court terme. Comment ? Le RAID propose un mode d'instruction à domicile. L'adolescent en errance qui traîne dans la rue et qui peut faire de grosses conneries, comme on le sait, reprendra tous les matins, grâce au RAID, avec un instructeur dans un tête-à-tête pédagogique, les matières fondamentales qu'il n'a pas pu acquérir à l'école. Le français, les mathématiques et des références historiques sur le pays dans lequel il vit et éventuellement aussi du pays duquel il vient. Il participera, pour ne pas rester dans un travail solitaire le matin, il participera l'après-midi à des activités culturelles et professionnelles d'insertion. Ainsi réintégré dans son milieu familial, il pourra envisager de construire dignement sa vie d'adulte. Ce dispositif touchera donc des adolescents qui n'ont plus d'école parce qu'ils ont été dégagés du système scolaire à partir de l'âge de 16 ans et qui de 16 à 18 ans, 19, 20 ans aujourd'hui n'ont aucune perspective. Malheureusement, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me trouve ici parmi vous, au cœur de toutes ces luttes qui se mènent dans les quartiers populaires, malheureusement le RAID n'est qu'un projet. Je suis enseignante depuis 15 ans dans un lycée professionnel, j'ai fait plusieurs banlieues et depuis 15 ans le phénomène de l'illettrisme, je le constate, s'aggrave. Aujourd'hui, je suis allée, forte de mon passé de militante, notamment issue du mouvement Beur des années 80, je suis allée dans différentes institutions pour réclamer un financement pour mettre en place ce dispositif qui devrait venir en aide à au moins, à titre expérimental la première année, à 12 adolescents, 6 filles et 6 garçons. Toutes les institutions m'ont refusé de financer ce dispositif, alors qu'on sait que le tête-à-tête pédagogique permettrait à des jeunes des banlieues chez eux de reprendre les bases fondamentales qui leur manquent et de réenvisager avec leur famille une insertion sociale et professionnelle digne de ce nom. C'est pourquoi aujourd'hui, forte de l'expérience que j'ai eue il y a une vingtaine d'années, je me dirige de nouveau vers la société civile, vers les militants de quartier, vers la presse, pour demander à ce que 25 000 personnes en France me donnent 10 euros pour mettre en place ce dispositif à la rentrée prochaine, puisque ce dispositif pour recruter les 6 instructeurs qui prendront en charge ces 12 adolescents doit coûter pour une année de fonctionnement 250 000 euros. 25 000 personnes qui me donnent 10 euros et c'est le RAID qui pourra commencer à la rentrée prochaine.
Merci Farida. Toutes les références seront sur le site évidemment de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si je voudrais dire juste deux mots de remerciement au ministère des Affaires populaires qui joue pour nous aujourd'hui, qui sont venus spécialement pour nous de Roubaix et de Lille en même temps. Saïd, HK, merci. Merci à vous. Dites-nous quelques mots sur votre engagement, vous, parce que vous n'êtes pas là par hasard. C'est pas seulement le showbiz qui vous a poussé jusque-là.
Non, mais là, en même temps, les raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui... Nous, on est dans l'expression. Évidemment, on est là aujourd'hui avec tout le monde, mais on est dans l'expression. Là, ce qui est impressionnant de voir autour de nous, c'est les gens qui sont dans l'action. Et c'est vrai qu'en ce moment, on allume la télé, on voit la France qui est en panique, la France est en crise, alors que dans les quartiers, ça fait 50 ans que les quartiers sont en crise. Et les crises, c'est une crise sérieuse. C'est économique, c'est culturel, c'est social. Ça fait 50 ans qu'il y a des gens qui sont humiliés, qui subissent l'injustice, qui crèvent la dalle. Et là, il y a des gens qui se battent depuis 50 ans. Et c'est vrai qu'on a du mal à les entendre, on a du mal à les voir. Non pas parce qu'ils se bougent pas, parce qu'aujourd'hui, notre intelligentsia, aujourd'hui, notre système, empêche le fait qu'on puisse les entendre. Et nous, MAP, nous, on est juste des témoins, on est des artistes, on est des saltimbanques. Nous, on raconte ce qu'on voit. On est au quotidien avec des gens qui luttent, des gens qui résistent. On est au quotidien et nous, on fait que témoigner. Donc voilà, on est content d'être là.
Merci en tout cas.
Je termine. Vas-y. On vient pour dire à quel point c'est juste. Et l'idée du FSQP, nous on vient de Lille-Roubaix, Tourcoing, et évidemment qu'on s'y retrouve. Donc ça veut dire que ce côté transversal, en tout cas dans tous les quartiers populaires de France, c'est même vie, c'est une vie commune, c'est quelque chose de commun. Et évidemment, la liberté de mon voisin, c'est ma liberté aussi. Mon voisin de Saint-Denis, mon voisin de Nanterre ou de Lille, c'est la même chose. Donc nous, on est contents d'être là et on propose à tous les gens des quartiers populaires, en tout cas, de tendre l'oreille et de savoir ce qui se passe ici.
En tous les cas, les négociations pour vous faire venir, ça n'a pas été long. Ça a été un coup de fil et vous avez dit oui, quoi. Hein ? Merci encore. Merci. On va parler maintenant avec Sakina des femmes des quartiers. C'est évidemment un thème de ce FSQP, comme tu dis si bien. Là, la question des femmes dans les quartiers. Alors, dès qu'on pense femmes et quartiers, hop, on dit ni pute ni soumise. Sakina, ça vous plaît, ça ?
Ah bon, je connais pas. Bah non. Merci, bonjour. Je voudrais commencer par dire, il y a une féministe qui a dit, on me traite de féministe chaque fois que je refuse d'être traitée comme un paillasson. Et nous, les femmes des quartiers populaires, on a fait l'expérience d'être traitées comme un paillasson, non seulement par par la société patriarcale, mais aussi par d'autres femmes à l'intérieur d'associations féministes que nous avons aussi portées. Le militantisme des femmes, il existe depuis très longtemps, la preuve. On a vu l'engagement de Farida, de Kaïssa, de Jida et de beaucoup d'autres. Simplement, les médias et les institutions politiques ne s'intéressent pas à l'engagement politique des femmes. On s'intéresse à nous uniquement pour parler de nous en termes de femmes soumises, soumises à la religion, aux grands frères, etc., ou de victimes. Voilà. C'est-à-dire que ça permet de mieux introduire les rapports de domination et de paternalisme, ce que nous refusons. Donc l'engagement des femmes, mais aussi des hommes, puisque nous ne militons pas toutes seules dans ces associations qui ont des identités plurielles et multiples. Et notre engagement, c'est justement de sortir de cette mise sous tutelle, y compris du féminisme traditionnel et institutionnel. La deuxième chose que je voulais dire, donc nous refusons ces deux images, ces deux stéréotypes de femmes victimes et de femmes soumises. Nous ne sommes pas contre les hommes avec lesquels nous militons. Hein, nous sommes engagés avec eux depuis très longtemps. Nous avons vécu la même expérience de l'humiliation et du mépris, du racisme et des inégalités sociales. Simplement, nous souhaitons articuler ces différentes luttes, celles des discriminations de genre, sexisme, mais aussi d'autres, celles de l'expérience des inégalités sociales, et puis celle du racisme ordinaire qui s'est banalisé, y compris à travers la figure qu'on a criminalisée de la femme musulmane qui porte le foulard. Et puis, un autre point, on voudrait nous faire croire que le féminisme et l'engagement féministe ou l'engagement des femmes est récent. C'est totalement faux. Bien avant nous, d'autres femmes se sont battues pour la liberté, contre les inégalités sociales, contre le capitalisme, contre le colonialisme. La preuve, c'est l'histoire de nos mères, qui ont aussi, à leur manière, milité pour que leur pays devienne libre. Et nous sommes aussi les héritières de cette histoire, de l'immigration post-coloniale. Dernier point, nous ne nions pas que dans les quartiers populaires, qui sont en fait le reflet de la société en général, ce n'est pas des... des territoires en dehors de la République. Hein. Simplement, les quartiers populaires concentrent tous les problèmes sociétaux. Donc nous, nous n'ignorons pas qu'il y ait du chômage, du sexisme, etc., etc. Par contre, nous refusons que, de manière systématique, les victimes soient perçues comme les promoteurs de ces inégalités, du racisme, du sexisme. Et donc, nous souhaitons, à travers notre engagement, montrer que les rapports sociaux sont ethnicisés et que lorsque des féministes, institutionnelles, posent la question de l'égalité homme-femme ou la question du genre, c'est perçu comme une question politique. Et quand c'est nous, c'est perçu comme une question identitaire et culturelle. Voilà. C'est aussi une forme de mépris que nous dénonçons à la fois de la part des médias, et nous vous remercions de nous accorder un temps de parole pour le dire, mais aussi de la part des partis politiques et des politiques en général.
Merci Sakina.
Je vous en prie, avec
merci.
Plaisir.
Merci. C'est quand le débat ? Au cours de ces deux jours, ce sera quand le débat sur la question féminine ?
Alors, il y a deux débats, ce n'est pas la question féminine, mais l'engagement hein, des femmes et les questions de genre et d'identité. Parce que finalement, elles se relient. Donc, il y a un débat à 18h que tout le monde va suivre, bien entendu.
Bien sûr.
Donc, après une pièce de théâtre, Le son du tissu, il y a un débat sur l'engagement des femmes et, dans les quartiers féministes et politiques dans les quartiers populaires. Et puis, un autre débat à 20h sur la concurrence des identités que nous souhaitons aussi débattre entre nous. Je voulais juste rajouter un point. Ce sont toujours les minorités qui ont rappelé à la majorité les vertus de la démocratie.
Merci beaucoup. Merci. Bravo, Sakina. Forum, débat, village associatif, cinéma, exposition, concert, théâtre. Aujourd'hui, samedi et dimanche, ici, à Nanterre, au stade Jean Guimier, au parc André Malraux. Vous venez, vous participez à tout ça pendant ces deux jours. Je voudrais parler avec Eros maintenant. Eros, il s'appelle comme ça, Eros Sana. Et la cause qu'il défend, c'est la ZEP. La ZEP, c'est-à-dire, tout le monde avait compris, la zone d'écologie populaire. Cher Eros Sana, c'est votre nom complet, Eros Sana. Est-ce que vous pouvez, en très peu de temps, expliquer ce qu'est la zone d'écologie populaire ?
Je ne sais pas si en très peu de temps, je pense que je vais dire ce que nous sommes. Je vais plutôt dire pourquoi est-ce qu'on est là.
Ouais.
La question principale aujourd'hui, c'est le Forum social des quartiers populaires. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des gens ont quitté Roubaix, Voisem, ont quitté la Rainerie, ont quitté le Petit Bar à Montpellier pour venir ici, ou comme moi, quitter Sarcelles. Nous, on est venus ici simplement pour dire, bah, vous savez quoi ? Vous nous traitez de minorité visible. On nous qualifie de quantité trop visible. Nous, nous disons, nous ne sommes pas la minorité visible. Nous, nous sommes la majorité invisible. Nous, nous constituons la France invisible, cette France qui, elle, est silencieuse, qu'on n'entend pas dans les médias, ou si ce n'est que pour nous caricaturer, pour nous stigmatiser. Nous sommes ici pour dire simplement que lorsque, aujourd'hui, par exemple, comme l'a dit tout à l'heure un copain, on parle de la crise financière, que personne ne prend le temps de dire cette crise financière, les premiers qui en seront les victimes, c'est justement les personnes des quartiers populaires et des banlieues populaires. Mmh. Et comme me disait un ami il y a un an, que ce soit lorsqu'on est en période de croissance, par exemple, les gens des quartiers populaires sont les derniers embauchés, mais dès qu'arrive la crise, les gens des quartiers populaires sont toujours les premiers virés. Et lorsque nous venons dire, nous constituons la France invisible, celle dont personne ne parle, voilà ce que nous sommes. Lorsqu'ici, vous avez des copains et des copines qui se mobilisent pour les questions de logement social, qui contestent l'apartheid urbain, qui vient entendre ce qu'ils ont à dire ? Qui vient voir ces luttes ? Lorsqu'à Paris ou dans les centres urbains, vous voulez enlever un platane, vous voulez couper un arbre, vous aurez tout de suite la presse qui fera un grand article, un grand reportage. Lorsque, dans les quartiers populaires, de manière non démocratique, on vient détruire des logements qui ont été laissés insalubres, on met des gens dans la rue, on fait de l'épuration sociale en envoyant les gens très très loin, personne ne vient rendre visibles ces luttes. Nous sommes là, les quartiers populaires dans ce forum, nous sommes là pour dire nous sommes aujourd'hui la France invisible. Nous sommes là pour dire simplement le visage de cette France, bah, c'est pas Rama, c'est pas Fadela, c'est encore moins toutes celles et tous ceux qu'on a voulu nous vendre. Ce visage, c'est le nôtre, il est ici, il ne se fera peut-être pas voir à travers la télévision, mais il sera présent dans l'action sociale quotidienne. Et surtout, c'est que le portrait robot qu'on veut dresser des gens de quartier n'est pas celui qu'on croit. Nous, on est prêts à prendre en charge toutes les luttes. Souvent, les altermondialistes disent « un autre monde est possible ». Nous, gens des quartiers, aujourd'hui, nous disons ben, « d'autres mondes sont déjà là ». Les luttes sont ici, les réussites sont ici. Et que les combats qui peuvent être considérés comme des combats qui ne sont pas des combats qui nous concernent. Mon réseau s'appelle la zone d'écologie populaire. Qui parle aujourd'hui des enjeux écologiques par rapport aux gens des quartiers? Qui considère que lorsqu'on parle de malbouffe, ben, on parle des gens des quartiers qui vont aller se nourrir à Lidl, à ED et manger de la merde? Parce qu'il faut le dire. Qui, lorsqu'on parle des questions d'enjeux environnementaux autour du climat, considère que, alors qu'on a laissé les immeubles, les HLM, les barres d'immeubles totalement se dégrader, alors que nos parents payaient les charges sociales, qu'aujourd'hui, la facture EDF qui double, qui triple, la facture d'eau qui double, qui triple, ben, nous, on la paye, comme la planète la paye. Personne ne parle de ça. Nous, nous venons pour parler de ça. Nous considérons que face à nous, il y a une attaque globale. Bah, nous aussi, gens des quartiers, nous avons un front global de résistance. Le Forum social des quartiers populaires, c'est un front global de résistance qui prend en charge toutes les luttes que nous menons, que des anciens ont menées avant nous, qui sont féministes sur la démocratie et aujourd'hui aussi sur l'environnement. Rien ne peut se faire sans nous. Personne ne peut parler en notre nom, parce que ce qui est fait en notre nom, sans nous, et fait contre nous.
Merci.
Aujourd'hui, nous prenons la parole pour dire que nous sommes là pour nous faire entendre et nous faire voir.
Merci, Rossana. Ils ont tous la patate. Quelle énergie. Alors, je vais me tourner vers Jocelyne et Amina, qui animent l'espace Palestine. Parce qu'évidemment, la question de la cause palestinienne se pose ici. Pourquoi elle se pose ici? Parce que bah, y a une familiarité, il y a une solidarité, évidemment, avec la cause palestinienne. J'ai une question à vous poser à toutes les deux. Il nous reste peu de temps. Est-ce que, en effet, on assiste, comme on le dit souvent dans les médias, les maudits médias, à une importation du conflit israélo-palestinien dans les quartiers populaires? Jocelyne.
Non, mais pas du tout. C'est ce que veulent faire croire certains. Mais en fait, si la question palestinienne et du conflit israélo-palestinien se pose dans les quartiers, c'est tout simplement parce que les gens des quartiers se sentent concernés. C'est une question qui traverse les quartiers, les gens des quartiers. Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est leur histoire, l'histoire de leurs parents, et une mémoire de la colonisation qui est encore extrêmement vive et vivace. Les gens des quartiers sont aussi d'autant plus concernés, d'autant plus sensibles à l'injustice qui est faite aux Palestiniens, qu'ils vivent même en permanence, depuis longtemps, une injustice à la fois sociale et politique. Et donc, le sens de ce forum, pourquoi il y a un espace, justement, Palestine, c'est parce que nous voulons mettre en avant et en évidence la dimension politique du conflit israélo-palestinien. Et donc, nous sommes réunis à plusieurs associations de manière totalement unitaire pour créer et animer ce conflit de manière ensemble. Et je voudrais peut-être citer les associations qui appellent...
Très brièvement.
Il y a l'Union générale des étudiants de Palestine. Il y a l'Association des Palestiniens en France. Il y a les Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine. L'Union juive française pour la paix. Génération Palestine. Les Missions civiles. L'Association France-Palestine Solidarité. Et l'association Regarde à Vue.
Amina, un mot?
Oui, juste un mot pour redire avec force à quel point nous voulons effectivement redire que le conflit israélo-palestinien dans les quartiers, ce n'est pas une solidarité ethnique, ce n'est pas une solidarité religieuse, c'est un problème politique. Et c'est la cause palestinienne reprise dans les quartiers, c'est pour de mettre en avant que le problème, il est politique. Et que c'est donc une façon pour les quartiers d'appréhender la politique à la fois nationale et internationale.
Qui sera le genre humain, comme chacun sait. Merci à tous, merci à toutes. Choukri, un dernier mot.
Un dernier mot, c'est ça se passe sur le stade Jean Guimier à Nanterre. Venez nombreux, RER A, sortie 7 du boulevard circulaire de Nanterre. Voilà, il y a des débats, il y a de l'ambiance, il faut venir nombreux, n'hésitez pas.
Merci à tous, c'était une émission préparée par Antoine Chao, Forum social des quartiers populaires, 3, 4 et 5 octobre à Nanterre, je le répète, stade de Jean Guimier, RER A, Nanterre Préfecture. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas, si j'y suis, à la technique, Sébastien Huel, Stéphane Foulon, Christophe Goudin, Christophe Mongin, c'est Koye Nguyen et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale grâce au Forum forum social des quartiers populaires. Nous sommes assistés de Charlotte Perry et c'est Agnès Lebot qui s'est occupée du répondeur de là-bas si j'y suis, qui attend vos messages au 01 56 40 37 37. Mes papiers sont en train de s'envoler. On a passé vraiment une heure formidable. Il y a une énergie formidable ici. Et on sait bien que la suite de l'histoire, de notre histoire collective, passe par ces quartiers populaires. Il est 16h sur Inter. On se retrouve lundi à 15h pour la base si j'y suis. Mais d'abord, un peu de réclame.